Bonjour à vous toutes et vous tous. Comment allez-vous? Oui, c'est Clotilde Seil qui vous accompagne pour vous présenter l'émission Le National, aujourd'hui, vendredi 31 mars, sur les ondes de Canal M. Vous savez que nous avons très à cœur tous ces Québécois, bien sûr, qui vivent sur la province, mais tous ces Canadiens aussi francophones qui vivent sur le territoire et qui vivent peut-être en situation de handicap ou qui encadrent quelqu'un qui vivrait en situation de handicap et qui pourrait bien être intéressé par un des sujets que nous traitons ici sur nos ondes. Alors, on s'est dit qu'une émission comme Le National pouvait vous permettre de réécouter des sujets qui sont passés cette semaine, à moins que vous ne les découvriez. Alors, tenez, par exemple, celui-ci. Souvenez-vous, si vous l'avez déjà entendu, ou sinon, ouvrez bien vos oreilles, parce que c'est vraiment très, très chouette comme entretien, celui que Marianne Paquette a eu avec différentes personnes dans le cadre de son émission « C'est bon pour la santé » le 29 mars dernier, alors qu'on évoquait la sortie du livre « L'autisme expliqué aux non-autistes ». Donc, ce livre « L'autisme expliqué aux non-autistes » avec Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, cofondatrice de SACAD, Centre d'expertise en autisme, et de Kim Tui, qui assistait et participait d'ailleurs aussi à cet entretien. Kim Tui, oui, l'auteur, et aussi la maman de Valmont, qui vit avec les troubles du spectre de l'autisme. Alors, on se repropulse le 29 mars dernier avec Marianne Paquette et ses invités.
Avec moi autour de cette table, les co-auteurs du livre « L'autisme expliqué aux non-autistes », Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, également co-fondatrices de SACAD, le Centre d'expertise en autisme, c'est situé à Québec, tout ça, et Kim Tui, maman de Valmont, qui vit avec l'autisme. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être là. Tout nouveau livre qui sort aujourd'hui, publié chez Trécaré. Kim, la méthode SACAD de Brigitte et Lise, ça a été très déterminant dans votre parcours de maman. Ça vous a permis de mieux communiquer avec Valmont. Et c'est pour ça que vous avez un peu lancé la perche aux filles de dire « vous devez expliquer ça dans un livre ».
Ah, pas juste lancer la perche, hein. J'ai supplié, j'ai prié parce qu'elles n'ont pas de temps. Évidemment, elles sont très sollicitées. Donc, j'ai presque léché les pieds pour qu'elles écrivent ce livre que vulgarise le cerveau d'une personne autiste qui est très différent d'une autre. Et jusqu'à maintenant, on a très mal compris. On a toujours interprété les gestes et les faits des autistes selon notre échelle à nous, ce qui crée, un malentendu ou sinon on se comprend mal. Et en plus, le langage SACAD, dans le livre, évidemment, on n'a pas décrit tout le langage SACAD, mais le langage SACAD conceptuel nous aide, nous donne vraiment un outil de communication. C'est l'équivalent du langage des signes ou le braille, oui, pour les autres handicaps. Et donc, il faut juste... ce livre nous permet de voir comment un autiste voit.
Oui.
On rentre dans le cerveau d'une personne autiste.
Et parlant de voir, moi, ce que j'ai retenu de ce livre-là, peut-être parce que vous le mentionnez à plusieurs reprises, c'est que pour une personne autiste, tout passe par les yeux. Comment cette nouvelle notion-là, parce que pour moi, c'était nouveau, peut nous aider à mieux comprendre une personne autiste?
C'est nouveau, c'est dans la littérature, ça fait longtemps. Les autistes le disent et le démontrent, ça fait longtemps, mais je pense que ça n'avait pas été compris exactement le rôle du visuel, mm-hmm, comme tel. Où ça devient aidant, c'est que la lecture que vous allez faire de la personne autiste va vous permettre de vous réajuster face à elle et de trouver une façon de communiquer beaucoup plus simple. Sinon, ce que ça fait, c'est que c'est deux langues différentes qui se parlent et qui se comprennent pas, là.
Mais quand on parle de visuel, et la belle phrase dans ce livre-là qui fait comprendre tout de suite, c'est de dire « il ne voit pas le froid ».
Oui.
Mon fils ne voit pas le froid. Puis c'est vrai, on pense jamais à ça, qu'on voit ou qu'on voit pas le froid, on ressent. Et c'est vrai qu'avec les yeux, on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'identifier ce qu'est le froid.
Ouais. Pour moi, cette phrase-là, vous parlez avec Valmont, cette expérience de froid, c'est plus par votre plume, Brigitte Harrison. Vous êtes travailleuse sociale, vous êtes également autiste, on doit le mentionner. Et le livre est parsemé de témoignages, ouais, dont les vôtres. Vous parlez de votre verre de lait. Quand le verre de lait n'a pas la même quantité, c'est comme plus du lait.
ça change d'identité. Ouais. Le lait n'est plus le lait. Ouais.
Et pour moi, ça, ça m'a vraiment aidé à comprendre. Et d'ailleurs, ça bonifie beaucoup l'expérience du livre « Vos mots à vous » et nous permet de mieux comprendre. Tantôt, Kim parlait du cerveau autistique qui est différent. Vous donnez une très, très belle image comme la boîte de transmission, le cerveau qui est manuel pour une personne autiste, cerveau, disons, plus automatique pour une personne neurotypique. Comment on peut expliquer ça, Lise?
Quand on dit une voiture manuelle pour les personnes autistes, ce qu'on veut signifier, c'est que tout le travail est à faire avec un élément à la fois. Alors, pour les personnes autistes, c'est beaucoup plus long à faire, dans le fond, ou à saisir, ou à comprendre, ou à, bon, ce qui se passe autour d'elle. Tandis que la personne qui est non autiste, pour elle, c'est vraiment tout se fait automatique. Elle n'a pas besoin de penser à chacune des étapes. Tout se fait automatique. Et les gens, souvent, on donne l'image quand ils voient Brigitte fonctionner puis qu'ils trouvent qu'elle est assez fonctionnelle, mais on dit, Brigitte, elle est devenue un excellent chauffeur de voiture.
C'est une Lamborghini.
C'est ça, tout simplement.
Non, mais elle conduit encore manuelle, c'est ça.
Elle est toujours une voiture manuelle. Vu de l'extérieur, par exemple, on ne peut pas savoir quand on regarde une voiture si elle est manuelle ou automatique.
Bien, mon fils est conduit manuelle puis il conduit moins bien que Brigitte, donc on voit qu'il s'étouffe aux côtes. Bien, en tout cas, quand il monte une côte, quand il essaie de stationner ou peu importe. Donc, on voit ces mouvements-là qui changent et que c'est difficile pour lui encore. Mais avec la connaissance de soi et puis le développement mental, comme Lise et Brigitte disent souvent, bien, ça nous donne les outils nécessaires pour justement apprendre à mieux conduire.
Mais surtout avec les outils appropriés. Et c'est ça, parfois, qui nuit aux familles. Vous parlez même de ralentir le développement de l'enfant autiste, la personne, de lui faire perdre son temps carrément quand les bons intervenants ou la bonne approche n'est pas au rendez-vous.
Et je pense qu'avec la description que Brigitte nous a apportée avec le fonctionnement interne, donc comment tout ça fonctionnait à l'intérieur, on avait eu dans l'histoire Temple Grandin qui avait une Américaine qui nous avait apporté beaucoup d'informations qui avaient été très précieuses, mais par la suite, dans la description comme telle et le savoir quoi faire après, on avait comme peu d'éléments. Et avec ce que Brigitte a apporté, ça nous a permis de bien lire ce que c'est ce qu'on explique dans le livre tout simplement. Et ensuite, maintenant, on sait qu'on peut faire quelque chose, on peut les aider, ces gens-là, avec le langage chakra conceptuel, ce qu'on a conçu et qu'on compare souvent avec la langue des signes, dans le fond, pour la surdité, avec le braille, pour les gens qui sont non-voyants. Alors, avec le langage conceptuel, c'est pour toute personne TSA 0-100 ans, c'est d'être capable d'établir ce pont-là de communication, finalement, entre la personne et...
Je vous donne un exemple. Mon fils, le matin, il avait tellement de misère avec les T-shirts, on ne savait pas pourquoi il refusait un, il acceptait l'autre, ou en tout cas, un provoquait une crise et autre. Donc, il n'est pas capable de faire autre chose que vraiment juste penser à ses T-shirts. Et là, quand il a acquis un meilleur moyen de communication, il est capable de prendre le polo, venir me voir, puis me montrer la fente sur le côté, puis dire « Bobo ».
Oui.
Et c'est pour ça que ça le dérangeait.
Il dit crème aussi, ben lorsqu'il veut un soin.
Et donc, il dit, mais ce T-shirt-là, je ne peux pas le porter. Il est déchiré. Et lui-même, il a pu me communiquer la solution. Il est allé chercher le papier collant pour coller la déchirure. Ben, en tout cas, pour lui, c'est quelque chose qui est déchiré. Et donc, c'est tellement... Et une fois qu'on a compris ça, ben, il n'y a plus de stress. Et là, il peut se concentrer sur l'apprentissage, sur son petit déjeuner. Je vous parle même pas d'apprentissage, mais s'il n'y a pas à se battre contre nous ou essayer de nous faire comprendre, ben il peut faire autre chose.
Ouais. Et ça me fait penser que l'anxiété peut prendre une grande place pour les personnes autistes. Est-ce que l'anxiété, justement, qui, bon, souvent on l'associe à une personne autiste, est engendré par cette méconnaissance-là?
Oui, l'anxiété, c'est un des principaux indicateurs comme quoi il y a une difficulté au niveau de l'autisme et le travail n'a pas été fait. On voit, il se manifeste de façon différente qu'on ait une structure plus importante ou qu'on ait une structure moins importante. Quand ta structure est plus importante, l'anxiété va faire en sorte que il y a une loi de la nature qui va s'appliquer. Si tu ne peux pas le dire, tu vas le montrer. Donc, les gens croient que c'est des troubles de comportement. Tandis que chez des traits fonctionnels plus avancés, ils vont avoir 1, 2, 3 diplômes et ils n'arriveront pas à travailler. ils n'arriveront pas à garder d'emploi, ils vont être hyper anxieux. C'est le même phénomène. On sait encore que l'autisme est en arrière et que ce travail-là n'a pas été fait. Et l'expérience et les commentaires aussi qu'on a reçus en chemin de différents professionnels du monde médical nous font penser qu'il y a une forme d'anxiété qui appartiendrait à l'autisme et qui ne répond pas non plus à la médication. Ça fait que les gens finissent par être bloqués par l'anxiété,
oui.
entre autres.
Oui. La façon dont vous avez abordé l'autisme expliqué aux non-autistes, c'est en mettant de l'avant des mythes qui perdurent associés à l'autisme, aux personnes autistes, et de les déboulonner un après l'autre. Il y en a 50 quelques, dont celui que la personne autiste a de la difficulté à être touchée. Kim vous donnait un très bel exemple avec Valmont. À un moment donné, vous avez compris qu'il fallait arrêter d'y sauter dessus.
Oui, exactement.
C'est bien dit. Arrêter de l'aimer trop. Non, en fait, c'est pas aimer trop, mais de trouver la bonne façon de l'aimer. Donc, l'exemple que Brigitte et Élise donnent souvent, c'est le saut en bungee. On cherche ce vertige-là, on cherche cette sensation-là. Mais quand on est prêt à sauter, on vit ce vertige-là avec beaucoup de plaisir. Mais quand on n'est pas prêt et que quelqu'un nous pousse,
ouais.
On ne vit pas le même saut. On ne vit pas la même sensation. Et donc, pour Valmont, c'est la même chose. Je crois que quand c'est nous qui décidons quand le toucher, ben, il n'est pas prêt et ça devient trop sensoriel ou en tout cas, sa tête n'est pas capable d'absorber cette information-là tout de suite et il devient il panique. Alors que là, quand je le laisse venir vers moi, ben c'est magnifique. C'est le plus affectueux de mes deux enfants, et incluant mon mari.
Quels sont, d'après vous, Brigitte et Élise, les mythes qui nuisent le plus aux personnes autistes?
La confusion entre les troubles de comportement et les manifestations autistiques. La confusion entre la déficience intellectuelle et l'autisme.
Ben oui.
Mm-hmm. L'idée que les autistes n'aiment pas les gens. Ce dont on vient de parler, c'est comme, je vous le résumerai en une phrase, un autiste agressif, c'est un autiste agressé, oui. et il n'y a pas de réel agresseur.
Oui.
Et c'est cette espèce de situation-là qui est vécue par un paquet de familles au Québec et partout dans le monde, qu'on essaie de défaire de plus en plus.
Ouais.
Les pires mythes sont là, selon moi. Et un autre des mythes aussi, c'est qu'on ne peut pas parler pour nous-mêmes.
Mm-hmm.
Et bienvenue en 2017.
Ouais. En terminant, il reste quelques secondes, mesdames, mais il faut prendre le temps de parler de ce plan d'action annoncé il y a quelques jours par le ministre Gaétan Barrette, donc plusieurs millions de dollars destinés à la recherche, destinés aux services pour les personnes autistes et leurs familles. Est-ce que ça a été bien accueilli chez vous?
Ce qu'on a vu de positif, c'est qu'il commence à y avoir une certaine ouverture. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que j'aurais peut-être à dire là-dessus, c'est j'espère que tous ces millions-là qui s'orientent vers la formation vont permettre de faire former les parents à la réalité autistique,
ouais.
et ça va impliquer qu'on entende ou qu'on se concentre de plus en plus sur ce qu'est l'autisme avant de commencer.
Ouais. Brigitte Harrison, Lise Saint-Charles, cofondatrice de SACAD, Centre d'expertise en autisme, sacad.ca, pour visiter votre site, et co-auteur de L'autisme expliqué aux non-autistes, et votre, comment on pourrait la nommer?
La cheerleader,
oui. Kim
comment Tweed. Comment on dit ça en français?
Ben, pom-pom girl, non, ça aussi c'est en anglais.
Meneuse de claque.
Ah, ouais, oui. Voilà, meneuse de claque.
Non, c'est notre porte-bonheur.
Oh!
Non.
Quel beau porte-bonheur!
Et elles, je les appelle les trésors nationales.
Oui, bien, je pense que vous avez beaucoup à vous apporter l'une l'autre. Et on lira L'autisme expliqué aux non-autistes. Merci beaucoup, mesdames.
Merci.
Merci.
Si vous êtes des habitués de Canal M, vous le savez, mais sinon, je vais vous le dire, j'anime une autre émission en fait deux autres, mais notamment celle-ci qui s'appelle « Des livres pleins les oreilles » et qui nous permettent d'entendre à chaque semaine des personnes non-voyantes qui utilisent des livres audio adaptés, soit via le CAEB, soit via le SQLA à la Grande Bibliothèque de Montréal ou un petit peu partout d'ailleurs au pays, parce que maintenant que le CAEB existe, on peut absolument avoir accès à tous ces livres et gratuitement partout d'Est en Ouest. Alors, il y a parfois des découvertes de bouquins, vraiment des livres qu'on a hâte d'avoir sur sa table de chevet. C'est le cas de celui que nous présente à l'instant Gérald Cousineau. Cet extrait de l'émission « Des livres pleins les oreilles » du 30 mars dernier. Ça s'appelle « Un fauteuil sur la Seine comme le fleuve, 4 siècles d'histoire de France » d'Amine Malouf. Cher Gérald, comment allez-vous?
Ma foi, fort bien, cher Clotilde.
Bon, je suis très heureuse, Gérald, mais vraiment que vous ayez choisi un livre dont j'ai parlé très rapidement dans le cadre de ma rubrique « Les titres en rafale » qui vient conclure cette émission à chaque semaine. Alors, j'espérais bien qu'à un moment donné ou à un autre, quelqu'un m'en parle un petit peu plus longuement de ce livre et vous avez choisi de le faire sans même que nous nous en parlions.
Que nous nous en parlassions.
Que nous en parlassions. Écoutez, pendant que je le disais, je me disais, oh là 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 là, ça sentait l'imparfait du subjonctif. Et puis,
oh, je les adore.
Oh, il ne m'est point revenu, oh, Gérald.
Alors, je parle de M. Amine Malouf, en fait, oui. De son dernier livre, je crois, oui. Un fauteuil sur la Seine, 4 siècles d'histoire de France, paru en 2016. Oui. C'est disponible pas au SQLA cette fois, je suis allé au Centre d'accès équitable aux bibliothèques, c'est là où on peut le trouver en format sonore. Mm-hmm. Et Amine Malouf, bien sûr, c'est l'écrivain franco-libanais bien connu, né oui. à Beyrouth en 1949, il a écrit des romans, des essais, et je l'ai appris, je l'ignorais, des livrets d'opéra. Prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tanioche, très beau livre, oui. Et bien sûr élu à l'Académie française en juin 1911, il va remplacer au 29e siège Claude Lévi-Strauss, qui n'est pas n'importe qui non plus. Donc, c'est quoi ce livre-là? D'abord, Clotilde, d'une précision sur le titre, parce que quand moi j'ai entendu parler de ce livre-là, je ne voyais pas le titre à mon écran. Mm-hmm. J'entendais un fauteuil sur la Seine. Pour moi, c'était bien sûr la scène de théâtre. Mm-hmm. Mais non, pas du tout. C'est la Seine, le fleuve qui traverse Paris.
Oui, absolument.
Pourquoi? Et... parce que le tout premier occupant du fauteuil numéro 29 s'est noyé dans la Seine, on en parlera tantôt, Henri de Monterland, qui a occupé le même siège, se suicide en 1972 dans son appartement avec vue sur la Seine et l'Académie française elle-même est logée dans un édifice qui longe la Seine à Paris. Donc voilà pour ceux qui qui se posaient la question sur l'orthographe du mot Seine.
Non, mais c'est vraiment pertinent parce que, en plus, honnêtement, moi, je le savais et pourtant, je l'ai mal écrit sur ma feuille de route.
Ah, c'est ce que j'ai fait la première fois aussi.
Oui.
Autre précision, Clotilde, l'Académie française, bon, on dit qu'elle a été fondée en 1634, mais en fait, elle a été fondée plus tôt, mais sous un autre nom. En 1629, il y a Valentin Conrart, qui se souvient de lui aujourd'hui. Oui. Valentin Conrart et quelques amis fondent un cercle littéraire et chaque semaine, enfin, ils se réunissent régulièrement pour parler de toutes sortes de sujets. Or, le cardinal de Richelieu, le tout-puissant cardinal, entend parler de ce cercle et il va comme le rendre officiel en 1634 et ça devient l'Académie française.
Ah, c'est comme ça que c'est né alors.
Voilà, et notre ami Amine Malouf, lui, au moment d'écrire son discours sur son investiture en 2011, pour le mois de juin 2011, ben lui, il décide d'écrire sur tous ceux qui l'ont précédé à ce siège-là.
Voilà.
Et tous ces chapitres, il y en a 18, parce qu'il y a eu 18 prédécesseurs, lui le 19e, commencent par « celui qui ». Il n'y a pas de « celle qui », hein? Parce que jusqu'à présent, aucune femme n'a occupé le siège numéro 29 de l'Académie, même s'il y a des femmes aujourd'hui.
Deux, hein?
Pas plus que deux.
Non,
hein, 240,
cher monsieur.
C'est pas beaucoup. Hein.
Non.
On parlera pas d'égalité pour l'instant. Là.
Non. Ne remuez pas cette boue qui nous fait si mal.
On compte sur vous pour être peut-être la prochaine personne à occuper le siège numéro 29.
C'est mal barré. Hein?
C'est pris chez vous. Donc, On voyage dans le temps. Et on commence, donc je reviens en 1634 avec le tout premier occupant, c'est Pierre Bardin, dont on a oublié le nom, je pense bien. Mais le malheureux, à 40 ans, il va se noyer dans la Seine.
Encore?
Et 14 mois après être devenu académicien. Donc, ça commence mal. Et d'ailleurs, Malou va ajouter, de façon un peu humoristique, voilà, c'est le premier immortel à mourir.
Ah ben oui, c'est vrai, tout à fait. Sauf que c'est pas le premier à mourir noyé dans la Seine.
Non, bien sûr.
Non, mais je veux dire, lui, non, mais y a, en fait, oui, lui, c'est le premier, mais ensuite, il y a quand même eu Monterland aussi.
Ouais, en fait,
dont vous parliez tantôt,
non? Monterland, oui, comme je disais tantôt, il s'est suicidé chez lui, dans son appartement, qui, comme je le disais tantôt, donne sur la Seine, avec vue sur la Seine. Donc, Pierre Bardin a été le premier académicien à occuper le siège numéro 29. Il y en a eu, bien sûr, plusieurs autres. Et là, je m'arrête, entre autres, à un certain, tenez-vous bien, François-Henri Salomon de Virlade.
Le dernier ferme la porte.
Ça ouvre des portes, un nom comme ça. Hein. Pourquoi on parle de lui aujourd'hui? C'est parce qu'il a battu, il a battu Corneille. On l'a préféré à Corneille, Pierre Corneille, auteur du célèbre Cid. D'ailleurs, Corneille ne fera jamais partie de l'Académie. Un peu plus tard, il y a eu un certain Florian. Vous rappelez-vous Florian? C'est loin, hein? Florian, c'était le protégé de Voltaire.
Oui.
Semble-t-il. Et c'est à lui... Je l'ai appris qu'on doit la fameuse chanson « Plaisir d'amour ».
Oui, eh bien c'est pour ça.
Ne dure qu'un moment.
Mais oui.
On a tous chanté ça.
Ben absolument.
Florian a écrit des fables qui ne sont pas aussi célèbres que celles de La Fontaine, mais c'est à lui qu'on doit ces petits bouts de phrases qui sont passés dans le langage commun. « Rira bien, qui rira le dernier ». C'est lui qui a écrit « Chacun son métier, les vaches seront bien gardées ». Et c'est lui qui a écrit « Pour vivre heureux ». Vivant caché, ça c'est ma préférée, ça.
Ah oui, c'est vrai.
Donc c'est Florian. Et ensuite, il y en a eu d'autres, évidemment, il y a eu notre ami, avant de passer à Claude Bernard. Claude Bernard, c'est le médecin, le fameux médecin du 19e siècle. Imaginez-vous que Claude Bernard, quand il était jeune, il voulait se faire un nom comme dramaturge. Ben, on lui a fait comprendre assez vite que il se faisait mieux de se tourner vers la science, ce qu'il a heureusement fait. Ernest Renan, rappelez-vous Ernest Renan, celui qui a osé appeler Jésus un homme. Ernest Renan a publié un livre qui l'a fait connaître partout en Europe, « Vie de Jésus ». Or, dans ce livre, il osait appeler Jésus un homme, il le traitait comme un homme et non comme une divinité dont l'Église l'a dépeint comme le plus grand ennemi du christianisme. Aujourd'hui, ça fait sourire un petit peu. N'empêche qu'Ernest Renan a fait une œuvre assez puissante. Et ce livre-là, je pense qu'il est encore lu. Bon, je saute quelques années. Et je reviens d'ailleurs à Corneille. Quand je dis que Corneille n'a pas réussi à entrer à l'Académie, il y a eu des chicanes. C'était pareil pour Voltaire. Voltaire a fini par entrer à l'Académie, mais on lui a mis des bâtons dans les roues au départ. Victor Hugo, c'est pareil. Victor Hugo a réussi. Évidemment, c'était difficile de passer à côté de Victor Hugo. Mais ces trois-là ont eu quand même il y a eu des chicanes, des cabales. Ça n'a pas marché pour Corneille, mais ça a marché pour, bien sûr, Voltaire et Victor Hugo. Et bien sûr, on en arrive à le 18e, Claude Lévi-Strauss, l'éminent anthropologue. Et c'est à lui que va succéder Amin Malouf en juin 2011. Voilà.
Mais c'est passionnant, puis en même temps, c'est sur l'histoire de l'Académie française, mais sur l'histoire de l'histoire de France, quoi.
C'est vraiment un retour passionnant sur l'histoire politique et intellectuelle de la France depuis 1634. Alors, si vous aimez l'histoire, si vous aimez l'histoire de France, si vous vous intéressez, entre autres, à l'Académie, c'est un formidable retour sur le passé. Et ce qui ne gâche rien, c'est écrit d'une plume alerte.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Que je ne connaissais pas, alerte et même truculente à l'occasion.
Écoutez, Malouf, c'est pas le dernier des... Alors donc, il revient sur la Révolution, bien sûr, de 1789. La guerre de 70.
De Paris, etc.
L'affaire Dreyfus.
Bien sûr. Vraiment... Il a fait un travail de recherche, je pense, colossal. Je lui lève mon chapeau parce que c'est fouillé. Le texte est émaillé d'extraits de discours des immortels, mais on sent la recherche et ce n'est jamais lourd. C'est pas une œuvre d'érudition lourde, pas du tout. C'est écoutable ou lisible du début à la fin et on apprend beaucoup de choses. Parce que dans les 18 prédécesseurs, il y en a beaucoup dont on ne se souvient pas du tout.
Non, c'est ça.
Bien dire. Mais là, on se rend compte que plusieurs ont été élus, pas parce qu'ils avaient beaucoup écrit, mais parce qu'ils avaient un nom ou parce qu'ils avaient une vie. Il y en a un, entre autres, Joseph Michaud, qui a été condamné à mort deux fois, il s'en est sorti deux fois. Mais il y a des gens qui n'ont pas écrit grand-chose. Il y a des gens qui ont écrit seulement des œuvres scientifiques. Il y en a un qui a écrit seulement en latin. Alors que les académiciens, au départ, voulaient écrire, voulaient que les écrivains qui étaient dans l'académie, écrivent leurs œuvres en français d'abord.
Donc, c'est passionnant.
Donc, on apprend plein de petites choses. Les chicanes, les cabales,
le pouvoir des rois, les cardinaux, tout ça.
Oui, qui se mêlent de tout, tout. C'est une mine d'or, une mine d'informations.
Eh bien, je vais peut-être finir sur... j'ai dans mon bureau pour l'instant, mais je ne l'ai pas encore vu disponible, mais j'imagine, que, peut-être parce que je l'ai raté, il faudrait aller vérifier. Je ne l'ai pas encore vu disponible au SQLA, mais...
Non, j'ai vérifié encore tout récemment. Il est à l'ancien Inca. Maintenant, le centre d'accès équitable aux bibliothèques.
Mais donc, et ça, c'est vraiment disponible absolument partout, également via SQLA, d'ailleurs, parce que, je veux dire, on peut atteindre, via le CAEB, on peut également avoir accès. Oui, absolument.
J'oublie toujours ça. Et d'ailleurs, parlant de Malouf, on peut trouver quand même presque tout Malouf maintenant en formation d'or.
Oui, c'est-à-dire Léon l'Africain, Samarcande, Origine.
Les Jardins de Lumière.
Voilà, les Désorientés.
Un siècle après Béatrice, quelque chose comme ça. Là.
Oui, oui. Oui, absolument. En tout cas, ils sont vraiment tous trouvables. Et je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir choisi ce bouquin sur lequel, eh bien, il méritait ce livre qu'on s'y étendât un petit peu plus.
Oui, qu'on s'y étendisse.
Ah, voilà. Eh bien.
Donc, je suis pas sûr de mon imparfait, là.
Non, moi non plus.
Mais c'est le son que j'aime.
Moi non plus. Alors, peut-être qu'on va couper. Je sais pas. Mais oui. En tout cas, je nous trouve vraiment très, très, très en forme. Et nous n'allons pas manquer de lire ce livre. Je le rappelle, d'Amin Malouf. Je vous l'appelle au cas où. Oui. M-A-A-L-O-U-F. Un fauteuil sur la Seine. Sur la Seine, S-E-I-N-E, comme le fleuve. Oui, je sais bien, quand on dit le fleuve et que les gens qui connaissent le Saint-Laurent arrivent près de la Seine, ils appellent ça un ru, vous comprenez? C'est même pas un ruisseau, c'est un ru. Alors, un fauteuil sur la Seine, S-E-I-N-E, 2.4 siècles d'histoire de France, d'Amin Malouf et Gérald, comme toujours, grand, grand, grand bonheur de parler avec vous et de parler de littérature, d'échanger sur ces livres que nous apprécions tant. Merci, Gérald.
Au plaisir.
Bonne journée.
Au revoir.
Salut. Voilà, c'était la première demi-heure de l'émission Le National. Je vous propose de rester là parce qu'il va y avoir d'autres sujets à entendre ou à réentendre dans quelques minutes. Et nous revoici pour la deuxième partie de l'émission Le National, toujours animé pour vous par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Petit retour en arrière vers le 27 mars 2017, alors que dans l'excellente émission de Marie-Anne Paquette, Portrait de famille, on découvrait Marie-Catherine Duberger, la maman d'Anakin qui vit avec la dystrophie musculaire de Duchenne. Et on se demande comment protéger son enfant, mais comment le protéger sans le surprotégé. Et c'est cette question notamment qui est posée à la docteure Nadia Gagné, qui est psychologue, conférencière, formatrice et auteure.
Les enfants sont au centre de notre attention, parfois même de nos préoccupations, et on veut les protéger. C'est légitime, c'est normal pour un parent, mais les surprotéger pourraient leur nuire. On en parle davantage avec docteure Nadia Gagné. Elle est psychologue, conférencière, formatrice et auteure. Nadia Gagné, bonjour.
Bonjour.
Protéger, surprotéger, la nuance peut être difficile un petit peu à délimiter pour les parents et surtout de saisir qu'un enfant n'a pas besoin d'être surprotégé, mais pour saisir ça, il faut comprendre c'est quoi la différence entre les deux.
Mais en fait, ça ressemble un petit peu à la différence entre l'anxiété normale qui peut nous servir et l'anxiété pathologique quand on parle de troubles anxieux. Si je fais référence à la psychologie clinique. En fait, dans un cas, on pense à des conséquences ou à des dangers qui sont réels. Et dans l'autre cas, quand c'est exagéré, comme dans un cas de trouble anxieux ou dans le cas d'un parent qui surprotégeait son enfant, on parle d'éviter des dangers qui ne sont pas vraiment réels, qui sont surévalués dans la perception du parent. Ça peut être aussi une sous-estimation des capacités de l'enfant ou du stade de développement où il serait rendu. Donc, c'est un peu difficile pour un parent parce que c'est sûr que dans la mission d'un parent, dans le rôle d'un parent, il y a la protection de l'enfant. Mais des fois, la ligne est mince entre protéger adéquatement et surprotéger son enfant. Puis, bon, on peut penser à des parents dont l'enfant est plus vulnérable, qui pourrait tomber dans le piège de la surprotection. Mais il y a des parents dont l'enfant n'a pas vraiment de difficulté aussi, qui peut tomber dans le même piège.
Oui. Est-ce que les parents surprotecteurs ont tous un profil type? Par exemple, sont-ils des parents plus anxieux?
L'anxiété, oui. Une tendance à l'anxiété peut vraiment amener un parent à être surprotecteur de son enfant. Mais en même temps, pour que ce soit de l'anxiété, il faut que ce soit de l'anxiété qui se retrouve dans toutes les sphères de la vie du parent. Mm-hmm. Donc, pas juste vis-à-vis de son enfant. Il y a des parents qui n'ont pas nécessairement un trouble anxieux qui vont peut-être se montrer surprotectants juste dans le domaine de leur rôle parental parce que des fois, c'est des parents dont l'enfant a une histoire particulière, par exemple un problème de santé en début de vie qui est né prématurément. Donc, pour lequel il a fallu donner des soins particuliers en début de vie, mais c'est comme si le parent tombe dans le pattern d'offrir ce surplus-là de protection, même quand l'enfant est hors de danger puis il n'en a plus besoin.
Oui.
Il y a des parents aussi qui ont adopté un enfant. Donc, qui présume que l'enfant a eu un début de vie difficile, peut-être pas au niveau de la santé physique, mais plus au plan social et affectif, qui peut tomber aussi dans le piège de la surprotection. Puis, il y a des parents qui sont comme ça simplement par la peur d'être jugés par les autres parents, s'ils protègent pas assez leur enfant. Des fois, c'est une question de peur du regard des autres. Des fois, c'est le parent qui, en aidant son enfant, a le sentiment d'être utile. Comme il y avait une espèce d'auto-valorisation dans le fait d'assister son enfant. Là, c'est une cause qui semble égoïste, là, mais ça se fait à des niveaux plus ou moins conscients. Là.
Marie-Catherine Duberger, avez-vous l'impression que parfois vous avez ce comportement-là envers Anakin, c'est-à-dire de le surprotéger?
Écoute, pas vraiment, parce que comme que je disais auparavant, là, j'ai lu énormément. Et dans le cas de cette maladie-là, j'ai lu beaucoup qu'est-ce que les ados, mettons, qui étaient atteints de cette maladie-là avaient à dire. Et ce qui leur faisait le plus de peine et le plus de mal, c'était de voir leurs parents souffrir, c'est-à-dire d'être tristes à cause de la maladie et d'être traités différemment. Alors, j'ai vraiment enregistré ça dans ma tête, dans le bon dossier. Et on fait attention vraiment pour pas dramatiser, dire « Ah oui, c'est vrai, toi, tu peux pas. » Tu sais, on fait jamais d'apitoiement. On y dit tout le temps « Ben, c'est pas ta maladie, c'est la maladie. Puis la maladie ne te définit pas. Donc, tu peux te relever, on est capable. » Je pense pas que nous, on fait de la surprotection. On fait la protection nécessaire, pense, mais...
Sans tomber dans l'autre excès.
Non, parce que c'est pas agréable pour eux. On l'a bien lu, fait qu'on essaie que ça soit le plus normal possible.
C'est intéressant ce qu'elle dit, Marie-Catherine, Nadia, parce que il y a des impacts négatifs chez les enfants lorsque le parent est surprotecteur.
Oui, tout à fait, parce que quand on surprotège un enfant, sans trop s'en rendre compte, on le brime dans sa capacité de développer un sentiment d'autonomie puis un sentiment d'efficacité personnelle. Donc, l'enfant, on lui donne faussement l'impression qu'il a toujours besoin de son parent pour le protéger, qu'il n'est pas capable d'affronter le monde avec plus d'autonomie. Puis, en même temps, ça l'amène à, un peu comme son parent, à surestimer soit son incapacité ou soit les obstacles ou les dangers qu'il peut avoir autour de lui.
Oui.
Donc, l'idée, dans le fond, c'est d'essayer de remettre en question de temps en temps, de faire des bilans sur les capacités de notre enfant ou ses difficultés, ses limites, parce que ça peut changer aussi avec soit l'évolution d'une maladie ou soit avec
le développement de l'enfant
grandit, oui. Puis qui développe une plus grande maturité, donc une plus grande connaissance de ce qu'il peut faire. Donc, c'est toujours à être réévalué, puis il faut essayer de, quand on réévalue ça, quand on fait des espèces de bilans, il faut essayer de regarder les choses le plus réalistement possible. Puis dans le but, bien, on fait des petits essais, on peut mettre commencer à faire un plan de petits pas à notre enfant avec des petits défis, de sorte que, bon, on peut comme ça essayer d'évaluer par essai errant, là, ce qu'il est capable ou moins capable de faire, mais pas avec des grandes étapes ou des grands défis. Donc, il va par petits pas. Donc, comme ça, c'est plus sécurisant pour tout le monde.
Oui. Et aussi, Marie-Catherine le mentionnait, bon, elle dit, j'ai beaucoup lu, mais le parent qui n'est pas au courant du développement d'un enfant peut se dire, ah, mon enfant n'est pas rendu là, quand peut-être qu'il a cette maturité ou cette capacité d'accéder à une autre étape.
Oui, tout à fait. C'est bien d'essayer d'être informé. Il y en a qui vont le faire par les livres. Il y en a qui vont le faire en comparant l'enfant à ses pères du même âge. Dans le cas d'un enfant qui a une condition particulière, ben là, c'est sûr qu'on peut aussi s'informer auprès des professionnels qui nous entourent puis qui nous soutiennent à travers le cheminement de l'enfant. Eux, ils ont une variété de cas en tête pour avoir plus que les parents pour avoir une perception réaliste des compétences, oui, et des limites de l'enfant.
On va chercher de l'aide, on va chercher des guides. On peut aussi aller sur votre site, Dr Nadia, drnadiapsychologue.com. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Nadia Gagné, de vous parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Vous aimez cette émission Portrait de famille, eh bien nous allons y rester. Et ce sera la même émission d'ailleurs, celle du 27 mars 2017, alors que Marie-Catherine Duberger, maman du petit Anakin, est toujours en compagnie de Marianne Paquette. Et cette fois-ci, on va faire le point sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Pour en savoir un petit peu plus sur cet état physique et pour faire le point aussi sur l'état de la recherche avec un chercheur qui s'appelle M. Jacques P. Tremblay. Alors, dystrophie musculaire, qu'est-ce que c'est? Où en est la recherche? Petite précision, Jacques P. Tremblay est chercheur en neurosciences au Centre hospitalier de l'Université Laval.
Jacques P. Tremblay, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous joint du côté de Québec. Jacques Tremblay, vous êtes chercheur en neurosciences au Centre hospitalier de l'Université Laval. On est là avec vous pour que vous nous aidiez à mieux comprendre la dystrophie musculaire de Duchenne et surtout les recherches en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que Marie-Catherine et vous vous connaissez, on ne savait pas ça. Vous vous êtes rencontrés il y a quelques jours. Marie-Catherine, je pense que vous êtes allée rencontrer Jacques pour lui offrir de l'aide pour sa recherche.
Lundi, avec un autre parent qui vit la même situation que moi, on est allé lui remettre un don d'une levée de fonds que le parent avait faite pour la fondation. Donc, on est allé le rencontrer et gentiment, il nous a expliqué toutes les recherches. On a visité le labo. C'est le fun de voir la proximité. Et des fois, on a l'impression, quand tu n'es pas dans ce domaine-là, des chercheurs, tu ne peux pas parler à ça. Puis finalement... On peut visiter le labo, on se rend compte, on se parle, puis c'est pas sorcier.
Oui. Jacques P. Tremblay, cet apport-là de parents qui vivent avec un enfant qui a la dystrophie musculaire, ça doit être extrêmement signifiant pour la suite de vos recherches.
En effet, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à la dystrophie musculaire de Duchenne. Dans le temps, c'était le Téléthon de Michel Louvain. Et j'avais rencontré une famille de patients, avec un jeune patient qui avait demandé à sa mère « Quand je vais être plus vieux, je ne serai pas en chaise roulante », mais ce n'est pas parce qu'il venait de constater qu'un de ses amis était maintenant rendu en chaise roulante. Et la mère avait dit « Ben, il y a le docteur Tremblay qui fait de la recherche là-dessus ». À ce moment-là, je n'étais pas encore commis à travailler autant que ça sur la dystrophie musculaire de Duchenne, mais ça m'a vraiment capturé à ce moment-là.
Oui. Avez-vous l'impression qu'à travers les années, il y a des avancées scientifiques qui vous permettent de mieux comprendre cette maladie-là?
Oui, on la comprend beaucoup mieux et surtout nos espoirs de traitement augmentent d'année en année. Il y a des développements fantastiques. Il y a des essais cliniques qui sont en cours avec quelques médicaments. La tallurène, qui est un médicament qui peut passer des codons d'arrêt dans certains gènes. Il y a le Sodexon qui a été poussé en essai clinique jusqu'en phase 3. Et surtout, dans mon laboratoire, donc, on travaille sur une nouvelle technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9. C'est une technologie fantastique qui permet de couper des gènes et de les modifier. Et c'est une technologie qui n'existait pas il y a 5 ans. Et en fait, je dis tout le temps aux gens, je fais actuellement des choses que je ne rêvais pas de faire il y a 5 ans.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait espérer que dans un certain nombre d'années, évidemment, c'est difficile de se commettre sur un nombre d'années exactes, on pourrait arriver à traiter cette maladie, la dystrophie musculaire de Duchenne, Jacques Tremblay?
C'est vraiment mon espoir. Écoutez, on a des résultats actuellement sur les souris qui pourraient nous mener à faire un essai clinique. La principale difficulté, c'est le financement de ces essais cliniques-là.
Oui.
Faire un essai clinique sur une dizaine de patients Duchenne avec la technologie CRISPR, on parle facilement de 3, 3,5 millions de dollars.
Mmh.
Et c'est ça qui coûte très cher parce que pour les traitements que j'envisage, il faut livrer les composants du système CRISPR avec des virus qui sont des adeno-associated virus. Et ces virus-là doivent être fabriqués dans des bonnes conditions de fabrication. Et au Canada, pour l'instant, il n'existe aucune facilité pour produire ce genre de virus-là pour des essais cliniques. Ça fait au moins 2-3 ans qu'on approche le gouvernement du Québec pour investir dans une facilité pour produire de tels vecteurs viraux. Ça serait utile non seulement pour la dystrophie du chêne, mais ça serait utile pour plusieurs, en fait, un très grand nombre de maladies héréditaires qui sont aujourd'hui à des mutations dans des gènes. Et donc, la façon de traiter ces maladies héréditaires-là, c'est de faire de la thérapie génique. Et pour faire de la thérapie génique, on a besoin de vecteurs viraux produits dans des bonnes conditions de fabrication. Et malheureusement, comme je le disais, au Canada, aucun endroit pour produire ce genre de vecteurs-là. Et donc, on essaie d'avoir un endroit possible à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal. Ils ont des salles déjà disponibles, ils ont des équipes en place, mais on n'a pas l'équipement, il faudrait... Donc, on demande au gouvernement du Québec de façon répétitive. On est en train de bâtir un plan d'affaires. On a rencontré à plusieurs reprises des gens du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation pour essayer de leur faire admettre ce projet-là. C'est la principale limitation à passer à des essais cliniques. C'est le coût de fabrication de ces vecteurs viraux-là, le coût de faire l'essai clinique lui-même et tout ça, comme je vous disais. Le principal obstacle à des développements de thérapie, c'est le financement de la recherche.
Marie-Catherine, croyez-vous que, vu que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, c'est encore plus long avant d'obtenir du financement? Tu sais, si c'était une maladie qui ferait peur à plein de gens, comme le cancer, par exemple, bien, c'est pas contagieux, mais tout le monde peut l'attraper. Croyez-vous que c'est un frein?
En effet, il y a moins d'intérêt. Vous savez, quand il y a eu des maladies comme le sida ou comme le zika ou toutes ces maladies qui sont infectieuses et qui se répandent très rapidement, les gouvernements vont en effet mettre des sommes importantes d'argent pour faire de la recherche là-dessus et arriver avec des vaccins, etc. Mais dans le cas des maladies orphelines, malheureusement, la plupart des maladies héréditaires sont des maladies orphelines, touchent un très faible pourcentage de la population. Mais à cause de ça, on dirait qu'on ne sent pas le besoin de mettre de l'argent là-dedans. En fait, dans des pays comme la France, les États-Unis, il y a... Les législateurs ont reconnu l'existence des maladies orphelines.
Mm-hmm.
Ils ont consacré des budgets spéciaux à ça. Mais ici, au Québec et au Canada, on n'a pas encore de législation qui reconnaît que c'est un problème. Et pourtant, vous savez, au Québec, on a, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, oui, on a beaucoup de maladies héréditaires à cause qu'il y a un nombre limité d'ancêtres qui sont venus de la France. Certains étaient porteurs de ces maladies-là. Donc, à cause de ça, on a une bonne prépondérance de différentes maladies héréditaires. Et malgré tout, le gouvernement du Québec n'a jamais fait une législation reconnaissant que c'est un problème pour la population du Québec. Et une fois qu'on a reconnu que c'est un problème, bien, il faut consacrer des sommes à ce genre de recherche-là. Et
ouais,
malheureusement,
c'est le nerf de la guerre. Une dernière question, Marie-Catherine, vous aviez quelque chose à ajouter?
Bien, j'ai même plus de questions. Toutes les questions que j'avais décrites sur mon papier, M. Tremblay les a répondues sans même que je les pose.
Oui, mais je pense que vous touchez quelque chose d'extrêmement important, Jacques P. Tremblay. J'en ai parlé d'ailleurs avec Gail Ouellette, qui est la directrice générale du regroupement pour les maladies orphelines du Québec. Le nerf de la guerre est dans cette reconnaissance des maladies rares. Comment on les définit? Comment comment on les aborde, comment on s'articule pour mieux les traiter et faire la recherche. Est-ce que il y a des démarches qui sont entamées pour qu'on repense la façon dont on aborde les maladies rares ici au Québec?
Écoutez, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est une démarche qu'on essaie de poursuivre, et Gail Ouellette aussi poursuit ce genre de démarche-là depuis plusieurs années. Et malheureusement, toutes les fois qu'on réussit peut-être à progresser dans le gouvernement, on est rendu au sous-ministre, etc., pouf, on a des élections, puis on commence à zéro en bas de la table. Donc, c'est notre expérience à la fois à Gail Ouellette et moi que c'est difficile. On a fait des pétitions au ministre de la Santé, des pétitions signées par des chercheurs, des pétitions signées par des patients. Et malgré tout, on n'a pas réussi à avoir de résultats.
Mais avec des gens comme la famille de Marie-Catherine et la Fondation La Force, vous avez un très, très bon soutien. On peut le constater. On souhaite, bien sûr, qu'il y ait d'autres familles qui aient envie de continuer à se soutenir, et à s'intéresser aussi. Je pense qu'il y a aussi l'intérêt à la cause qui est assez... c'est important. Jacques P. Tremblay, vous êtes chercheur en neurosciences au Centre hospitalier de l'Université Laval. Merci de nous avoir un petit peu mieux défini les grands enjeux qui entourent la dystrophie musculaire de Duchenne.
J'aimerais juste rajouter que sans des fondations comme La Force et d'autres fondations qui supportent la recherche sur les maladies rares, ben, la recherche n'avancerait pas beaucoup parce qu'actuellement, les subventions du fédéral qui sont données par les Instituts canadiens de recherche en santé sont extrêmement difficiles à obtenir. Les chercheurs canadiens sont en très grande difficulté actuellement pour leur renouvellement d'octroi. Et il est temps que le gouvernement canadien augmente les sommes consacrées à la recherche. Ça a été énormément diminué sous le gouvernement Harper. Il est temps qu'on change de direction.
C'est noté. Jacques P. Tremblay, merci beaucoup.
Il faut compter sur des gens qui ont des bonnes idées pour faire avancer certaines causes. Stéphanie Leclerc est une maman qui fait la promotion du chariot de Caroline, ou le Caroline's Cart, si vous préférez, un chariot d'épicerie créé aux États-Unis qui permet de transporter un enfant en situation de handicap lorsqu'on fait son épicerie. C'était dans les Par Actualités du 27 mars. On réécoute. Il y a des initiatives qui méritent d'être saluées et celle dont on va parler maintenant en fait partie. J'accueille, ou plutôt, je l'accueille malgré tout, même si c'est au téléphone, Stéphanie Leclerc, instigatrice, de Le Chariot de Caroline, un chariot de supermarché adapté. Bonjour Stéphanie Leclerc.
Bonjour.
Écoutez, quelle bonne idée que ces chariots adaptés. D'abord, comment c'est né cette idée-là, Madame Leclerc? Et puis, depuis combien de temps maintenant est-ce que c'est disponible? Est-ce que vous en faites la promotion? J'ai 10 000 questions pour vous.
Oui. En fait, la petite histoire derrière ce chariot-là, c'est que c'est une maman aux États-Unis qui s'appelle Madame Drew Ann Long qui a créé ce chariot-là parce que Elle est la maman de Caroline, d'où le nom du chariot.
D'accord.
Qui vit avec le syndrome de Rett. Et à un moment, elle s'est bien rendue compte que c'était rendu impossible pour elle d'aller faire les courses avec sa fille qui n'entrait plus dans l'espace pour les petits-enfants, mais qui était non mobile. Elle ne se déplace pas, elle ne marche pas, sa fille. Donc, elle a essayé de trouver des
solutions.
Elle a essayé de voir ce qui existait, puis elle s'est bien rendue compte qu'il n'existait rien. Donc, elle a créé ce chariot-là. Et puis, elle a fait toutes les étapes de création, est allée chercher son brevet, elle a trouvé une entreprise, une compagnie qui le fabrique et qui le manufacture. Mm-hmm. Puis, c'est Audrey Rouleau, une autre maman et moi, qu'on a découvert ce chariot-là par le biais de groupes de soutien parce que chacun, elle et son garçon, a le syndrome d'Angelman. Moi, ma fille a le syndrome Phelan-McDermid. Donc, chacune dans nos groupes de soutien respectifs, on avait entendu parler de ce chariot-là par d'autres parents qui étaient aux États-Unis. Puis, on a fait des recherches et toutes les deux ensemble, sans se coordonner, on avait fait des démarches pour réussir à en avoir au Québec. Donc, elle a réussi à avoir un premier chariot là, en automne 2015. Ici, nous, on est dans la ville de Québec.
Oui.
Puis, moi, je faisais mes démarches un peu en même temps. Moi, ça a été un petit peu plus long avec le chariot arrive. Puis, ensemble, on a créé une page Facebook pour faire connaître ce chariot-là. Parce qu'en fait, il y en avait au Canada depuis 2013, mais au Québec, il n'y en avait pas nulle part.
Ah,
puis, pour réussir à en avoir, en fait, il faut que les proches aidants, que les parents fassent des demandes aux commerçants, au commerce qu'ils fréquentent, pour que ce commerçant-là fasse une commande auprès d'une compagnie qui est au Canada, qui prend les commandes au Canada, parce que ça... on réseaute pas, ça passe pas directement par l'entreprise américaine.
Là. OK, d'accord. Donc là, si je vous suis bien, pour les gens qui nous entendent, ensuite d'ailleurs, vous allez nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble, ce chariot-là, mais pour les gens qui seraient intéressés en ce moment, pour les parents, par exemple, d'enfants lourdement handicapés, il n'y a pas de moyen de s'en procurer via les États-Unis, mais par contre, si je vous comprends bien, c'est le commerçant qui peut en faire la demande. Il faut donc que les parents en fassent eux-mêmes la demande à leur commerce. Est-ce que c'est bien cela?
Oui, c'est exactement ça.
D'accord.
Succursale par succursale, il faut que les gens fassent une démarche pour faire connaître ce chariot-là qui n'est pas encore beaucoup connu aux commerçants, qui explique un peu le besoin d'avoir ce chariot-là. Puis ensuite, le commerçant peut demander à l'entreprise, la compagnie, c'est Carry All, qui est à Montréal, donc elle offre le service en français et en anglais. Et c'est cette entreprise-là là, qui s'occupe de faire les commandes et les livraisons auprès des commerces.
Carry All, c'est comme carry, tout, comme porter, puis all comme tout, c'est ça?
Oui, exactement. C'est D'accord. C-A-R-I, trait d'union A-L-L.
OK. Point C-A?
Je pense que c'est .com, mais ils ont un numéro sans frais, le 1-888-640-1414.
D'accord. Parce qu'à un moment donné, là, j'ai des documents sous les yeux. L'outil indiquait qu'il y avait 10 adresses au Québec alors qu'il y en avait plus de 25. Alors, je comprends mal. On pouvait finalement se le procurer, cet outil-là? Qu'est-ce que ça veut dire?
L'outil, ben, probablement que vous parlez, c'est que la page... Le site Internet de Caroline Scott, qui est aux États-Unis, recense les endroits où sont disponibles les chariots. Donc, il y en a pour les États-Unis. Puis, il y a aussi un autre outil, c'est une liste là, qu'on peut faire dérouler pour les adresses au Canada.
Ah,
on peut faire un tri par province.
Oui.
C'est simplement que Carry All envoie la mise à jour des nouvelles adresses à Caroline Scott
une
fois par cycle. Donc, c'est pas toujours en temps réel, là, l'outil.
Je comprends bien. Bon, alors, à quoi ressemble ce chariot-là, Madame Stéphanie, Madame Leclerc, Stéphanie?
C'est un chariot d'épicerie et au lieu d'avoir la portion qui fait qu'on peut emboîter les chariots les uns des autres, dans les autres, là, la portion qui se relève et qui contient un espace, une espèce de siège là, pour mettre les petits-enfants, ça, cette portion-là n'est pas là. C'est plutôt remplacé par une espèce de gros siège, une grosse coquille qui peut asseoir sécuritairement une personne de 35 à 250 livres. Donc, c'est pas seulement pour les enfants, là, ça peut être aussi pour les personnes...
Pour les adultes.
Oui, pour les personnes âgées. Il y a vraiment une foule de problématiques, là, des situations particulières, là, que ça vient couvrir vraiment un large spectre de besoins. Donc, ce siège-là, en fait, possède un harnais à 5 points. Les poignées également se retournent pour qu'on puisse avoir l'espace requis là, pour asseoir la personne. Et il y a des freins pour pas que le chariot roule avec nous pendant qu'on assoit la personne.
Bien
sûr. Puis la grille du bas, elle est un peu plus longue vers l'arrière, vers là où la personne pousse. Comme ça, la personne qui est assise, ses pieds ne traînent pas par terre, mais sont plutôt installés là, sur l'espèce de plateau là, du bas de chariot. Mmh. Donc, Madame Long a vraiment pensé à tout. C'est sécuritaire. Puis, c'est pas que seulement pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Donc, moi, ma fille, elle marche. Par contre, elle a une déficience intellectuelle. Elle ne parle pas. Puis, elle aime ça, vider les tablettes, se sauver. Donc, moi, je peux l'asseoir là-dedans.
Oui.
J'ai pas besoin. Je peux pas pousser sa poussette adaptée et le chariot en même temps. Donc, ça, c'est la situation qui se présente pour les gens qui sont en chaise roulante. On ne peut pas pousser et la chaise roulante et le chariot en même temps. Donc, puis ça peut aussi aider les enfants autistes, des fois, étant donné qu'ils sont face à la personne qui pousse.
Ben
je dis enfants, mais c'est aussi ados et adultes.
Mm-hmm.
Donc, ils ont le contact visuel avec la personne qui pousse. Sont un petit peu plus, étant donné la façon dont le siège est fait, un petit peu plus enfoncé là, dans le panier. Donc, ça crée un petit peu... pas vraiment une bulle, mais il y a un petit peu moins là, de contact direct avec la foule autour. Donc, ça peut être un peu plus rassurant là, pour les personnes qui ont de la difficulté là, avec beaucoup de mouvements puis beaucoup de gens.
Eh bien, c'est vraiment, en tout cas, je trouve l'idée fantastique. Alors, je voudrais rappeler, Madame Leclerc, aux auditeurs qui se sentiraient concernés par cette innovation, par ce chariot de Caroline, que pour se le procurer, le mieux, allez faire une demande à votre commerce, là où vous avez l'habitude d'aller faire votre épicerie. Et c'est le commerce qui va rentrer en contact avec Carry All, donc C-A-R-I, trait d'union A-L. Elle, pour pouvoir éventuellement avoir un, deux ou trois machines comme celle-ci à disposition pour les personnes handicapées. C'est bien ça, hein? Voilà.
Oui, exactement. Puis pour toutes les nouvelles, puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle adresse qui s'ajoute, moi, j'invite les gens à venir suivre la page Facebook qu'on a créée qui s'appelle Caroline's Cart au Québec. Donc, nous, on peut soutenir les gens qui ont des fois des questions sur comment ça fonctionne. Puis,
d'accord.
Dès qu'une nouvelle adresse existe, nous, on la diffuse par le biais de cette page Facebook-là pour que la nouvelle soit connue du plus grand nombre.
Est-ce que c'est juste un nom en français, en anglais, ou vous avez un nom en français aussi?
Bien, étant donné que le chariot, je veux dire, il y a un droit d'auteur là-dessus, il y a une propriété intellectuelle. On n'a pas francisé le mot. Donc, le chariot s'appelle Caroline's Cart. Donc,
d'accord.
La page s'appelle Caroline's Cart
bien
au
sûr.
Québec.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Mme Leclerc. Et puis, bravo. Et je suis contente que vous ayez pu nous en parler ce matin.
Oui, bien, merci de nous avoir invités. Merci énormément.
De rien. Bonne journée, madame. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Voilà, c'est une bonne idée. Hein. Vous pouvez même aller sur le web pour voir à quoi ça ressemble exactement, ce chariot de Caroline. C'était le National cette semaine. Merci à toute l'équipe qui rend possible cette émission. Merci à vous toutes et vous tous de nous écouter religieusement. Pour plus d'informations ou écouter nos émissions ou entrevues, vous pouvez visiter canalm.vusezvoix.com. À la semaine prochaine.